Bonjour à tous. Donc, dans la pénombre chaleureuse de l'amphi Albax, nous allons reprendre les travaux sur ce thème de l'équité hors du droit, avec d'abord l'exposé de M. Laurent Fombostier de Paris-Saclay, qui va nous parler d'une question d'actualité, l'équité intergénérationnelle, qui est au cœur de tous les débats, bien sûr, sur le climat.
Merci, Monsieur le Président. Merci bien. Bien, je remercie infiniment le professeur Mantovani de m'avoir permis de m'exprimer ce matin. J'aimerais, si vous le voulez bien, ouvrir mon propos par de très brèves évocations notionnelles, en rappelant simplement peut-être que les notions d'équité, d'égalité, le caractère équitable de la répartition, de la distribution, les notions d'inter et d'intragénérationnel ont tout à fait leur place du côté des environnementalistes, pour tout un tas de raisons sur lesquelles nous reviendrons évidemment. L'idée, d'un certain point de vue, c'est que s'il est très difficile de définir l'environnement lui-même autrement qu'à travers des continuités spatiales et temporelles, en revanche, on peut imaginer que pour l'humanité, le fait d'habiter ce lieu unique, ce lieu particulier qu'est la Terre, implique évidemment des réflexions tout à fait singulières du point de vue des conditions de la survie, d'une certaine forme de répartition des ressources et des biens qui nous sont ainsi donnés. D'anciennes réflexions sur le dominium pourraient être ici évidemment mobilisées. Je voudrais simplement donner une définition très provisoire de l'équité intergénérationnelle qui, effectivement, a été proposée dès 1992 lors du sommet de la Terre de Rio, c'est sans doute pas un hasard, avec pour conséquence une sorte de promotion d'un droit des générations futures. L'idée est relativement simple, en tout cas dans son fondement. Elle reprend certains principes éthiques classiques de justice sociale et d'équité, auxquels on va ajouter d'ailleurs une dimension explicitement, fortement temporelle, si je peux dire. La volonté explicite consiste tout simplement à éviter le report vers les générations futures d'un certain nombre de conséquences négatives inhérentes à nos activités, et en particulier ici, c'est ce qui nous intéresse, les conséquences environnementales, lato sensu, incluant évidemment le climat. Conséquences d'une forme de développement, d'une modalité de développement telle qu'il a été promu par un certain modèle économique et industriel, pour faire court, depuis sans doute l'époque moderne, et en tout cas plus précisément l'ère industrielle. Ici, j'aimerais dire en deux mots, que le droit a toute sa pertinence. Il a une pertinence potentielle sur cette question, parce que le droit est un outillage. C'est un outillage qui habilite, qui interdit, qui impose, qui conditionne, qui distribue ou redistribue parfois, qui répartit, partage, équilibre. Et bien évidemment, si notre colloque porte sur l'équité hors du droit, on peut quand même s'interroger sur les conditions d'une traduction de l'éthique à laquelle je viens de faire indirectement allusion, dans les formes du droit. Une sorte d'éthos de la répartition, de l'équilibre, de l'égalité ou de l'équité. Donc le droit a vraiment son mot à dire, évidemment, sur ces questions-là. L'idée qui est centrale, me semble-t-il, en écologie politique, en tant qu'elle irrigue le droit de l'environnement dont je vais me préoccuper devant vous, c'est l'idée d'un dépassement de la position de l'individu et d'une façon de l'englober dans des entités ou des ensembles plus vastes qui lui préexistent. Et l'écologie politique est extrêmement attachée à cette philosophie, si je puis dire, d'une nouvelle répartition, d'un nouveau partage entre les parties et le tout. La plupart des grands écologues politiques sont traversés par ces questions de l'insertion de l'individu dans des ensembles plus vastes qui lui préexistent et qui, à certains égards, lui survivront. On comprend donc bien la pertinence du sujet ici, même si le titre du colloque portait, vous vous en souvenez donc, sur l'équité hors du droit, ce qui va m'inviter peut-être à, sans jouer sur les mots évidemment, mais à proposer une réflexion en quelques mouvements, si vous me le permettez, en expliquant tout d'abord que si l'équité intergénérationnelle est hors du droit du point de vue de l'environnement, elle est en réalité aux abords du droit. Elle est aux abords du droit à travers un certain nombre de traces ou empreintes de l'équité, d'un souci d'équité intergénérationnelle dans le droit, et en particulier dans le droit de l'environnement, des empreintes assez visibles. Mais j'essaierai de dire dans un second temps, dans un deuxième temps, que cette insertion timide à travers des traces et des empreintes se heurte en réalité à des vents si puissamment contraires que l'équité intergénérationnelle semble pour l'heure rester effectivement hors du droit. Ce qui me conduira à m'interroger en manière d'ouverture très rapide sur quelques-unes des conditions assez générales qu'il conviendrait de réunir pour que véritablement cette équité intergénérationnelle environnementale traverse le droit. Évocation notionnelle d'arrière-plan. Le droit, d'une façon générale, n'est pas du tout insensible à l'idée d'un dépassement de l'individu comme cellule atomistique, si je puis dire. Et le droit public en porte témoignage, bien évidemment, dans l'histoire des démocraties et des constitutions libérales. Des notions comme l'intérêt général, l'ordre public, l'équilibre, qui est assez présent en réalité dans le droit, mais aussi peut-être plus récemment, des notions comme, enfin, plus récemment et en même temps très anciennement, des notions comme la solidarité ou la dignité, préparent, me semble-t-il, le terrain et peuvent être corrélées au principe d'équité intergénérationnelle. Ce qu'on voit d'ailleurs assez bien dans un grand nombre de requêtes déposées devant des juridictions nationales lorsqu'il s'agit d'attaquer les États, point sur lequel je reviendrai dans quelques instants. Et puis, il ne faut pas négliger le fait que dans le droit de l'environnement en particulier, on a tout un tas, toute une nébuleuse, si je puis dire, de notions, de concepts, de paradigmes. Et d'ailleurs, à tous les étages des systèmes juridiques internationaux, étage international, européen, national, à travers des notions qui, évidemment, font sens du point de vue de l'équité intergénérationnelle lorsqu'il s'agit, par exemple, d'évoquer le patrimoine commun de l'humanité, les biens communs, les communs, créant une sorte de halo de bénéficiaires, en quelque sorte, même si j'oublie ici les controverses sémantiques sur le fond, sur la question des biens ou des communs. Mais on a aussi toute une réflexion qui est en cours sur ce qu'on pourrait appeler les droits environnementaux comme droits collectifs, reposant sur un certain universalisme à leur tour, une subjectivation au profit de nouvelles entités et à partir d'une approche quantitative et qualitative qui implique, qui inclut l'environnement. Je pense à de nombreux textes qui consacrent le droit aux ressources naturelles permettant la satisfaction de besoins primaires. Je pense à la grande formule du droit à un environnement sain et équilibré, d'un droit à l'eau, à l'air. Peut-être plus récemment, et de manière trouble à certains égards, on pense à un droit à l'énergie, et de façon à la fois évidente et néanmoins relativement récente, à un droit à un climat vivable, à une planète habitable. À certains égards, l'approche fonctionnelle du droit de l'environnement, préserver, conserver, protéger pour, ce qui m'intéresse dans cette approche fonctionnelle, où des notions comme les équilibres biologiques ou écosystémiques vont, me semble-t-il, aussi dans le même sens. Et on pourrait y ajouter, évidemment, des thèmes, là aussi à première vue évidents et pourtant relativement singuliers ou nouveaux, que je ne vais pas détailler, qui sont peut-être un peu plus techniques d'ailleurs dans leurs implications juridiques. On pense à l'économie circulaire ou collaborative, par exemple, à la solidarité écologique, qui est au centre de nos discussions à bien des égards, mais aussi à des notions limitantes ou limitatives comme la capacité de charge ou les limites planétaires, par exemple, qui sont des notions qui, là encore, me semble-t-il, préparent le terrain. Je ne dis pas qu'elles déterminent nos réflexions futures, mais elles préparent, me semble-t-il, le terrain d'une manière très féconde. L'idée, c'est quoi ? Toujours cette idée d'une insertion, d'un dépassement par le droit de l'individu comme centre ancien ou récent, disons, d'un système au profit de sujets à entendre dans une double acception, qui en première intention reste peut-être installé dans un espace anthropocentrique, mais qui en réalité, j'y reviendrai tout à l'heure dans une forme d'ouverture, s'ouvre à d'autres considérations. Donc notre sujet, néanmoins, repose, me semble-t-il, quand on resserre un peu la focale, sur des notions que le droit, évidemment, connaît très bien, qui sont apparemment techniques et qui sont en même temps comme des paradigmes dont je vais dire quelques mots, et qui sont des paradigmes forts, comme le développement durable ou les générations futures, la seconde notion étant d'ailleurs à bien des égards incluse dans la première. Alors, ces notions, en réalité, ce sont peut-être parmi les plus mobilisées aujourd'hui par les acteurs du droit, et notamment les acteurs contentieux du droit, et j'en dirai un mot dans quelques instants, mais si vous me le permettez, avant cela, je voudrais peut-être évoquer les traces textuelles, pardonnez-moi, les traces textuelles de l'équité intergénérationnelle, car l'équité intergénérationnelle est entrée dans le droit de l'environnement à travers plusieurs textes internationaux. Je pense notamment au rapport Stern du 30 octobre 2006 sur l'économie du changement climatique. Et puis on a de nombreux textes sur lesquels je ne vais pas m'apesantir, qui sont des textes souvent non contraignants du droit international, qui mentionnent plus ou moins explicitement ce principe d'équité intergénérationnelle. On a des éléments implicites, me semble-t-il, dans la déclaration de Stockholm de 1972, un peu plus précis à Rio en 1992, et puis je pense aussi à la déclaration mondiale de l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, sur l'état de droit environnemental, qui reconnaît à demi-mot le principe d'équité intergénérationnelle. Et à Rio plus 20, on s'aperçoit d'ailleurs que de 20 ans en 20 ans, 1972 Stockholm, Rio 92 et 20 ans plus tard Rio plus 20 en 2012, on voit bien une sorte d'acuité croissante autour sur les réflexions concernant ce principe d'équité, puisque l'article 3 de la déclaration Rio plus 20 reconnaît la pertinence du principe d'équité intergénérationnelle. Et puis bien sûr, ça va sans dire, très nombreux textes, vous pouvez l'imaginer, qui consacrent le développement durable et les générations futures. Il est même inutile d'en parler tant ces textes sont pluriels et se ramifient d'ailleurs dans des directions ou des champs d'activités humaines extrêmement différents et variés. Peut-être un mot néanmoins pour dire que la définition bien connue du rapport Brundtland de 1987 a été très largement reprise et commentée et a surtout fait l'objet d'une insertion en droit national en France en 2005 à travers la Charte de l'environnement de 2004, dont le considérant 7 du préambule énonce en effet, ça peut nous servir de guide, si je puis dire, pour la suite, je le cite, « Afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. » Ce qui, en dépit de tous les problèmes qu'une telle affirmation négative fait surgir, nous met bien, me semble-t-il, au cœur de notre sujet. Alors, je voudrais justement maintenant m'arrêter quelques instants, si vous voulez bien, sur ce qui correspond dans mon esprit au passage d'une trace en direction d'une empreinte. Donc, quelque chose d'un peu plus fort, d'un peu plus affirmé, et qui correspond d'ailleurs à des développements, vous l'avez très bien dit, d'une brûlante actualité, et quand je dis brûlante, je pèse un peu mes mots, à travers la notion d'empreinte jurisprudentielle. L'équité intergénérationnelle apparaît en jurisprudence et d'une façon croissante. Et avant même d'évoquer de manière très rapide trois décisions récentes, je voudrais que nous comprenions bien à quel point la chose est aiguë et véritablement actuelle. Au moment où nous échangeons, au moment où je vous parle, environ 1600 actions en justice sont déployées de par le monde, émanant pour l'essentiel de la société civile ou des sociétés civiles, sous des formes variées, dans différents États. Alors, pas dans l'ordre international, parce qu'il manque, je n'ai pas le temps d'y revenir évidemment, tout un tas d'éléments structurels ou institutionnels qui permettraient de rendre crédibles de telles actions. En revanche, devant une centaine d'États, des actions pour inaction climatique et environnementale sont développées par un certain nombre de représentantes et de représentants de la société civile. Et c'est tout à fait symptomatique. D'ailleurs, ça pose la question, mais on y reviendra peut-être à travers des échanges ou des questions qui seront posées plus tard, de la légitimité des juges à s'emparer de ces questions-là. Les juges qui, d'ailleurs, sont souvent considérés comme intervenant non pas trop tard, mais après coup, et alors que rien n'était fait. Donc, l'intervention des juges, les actions en justice sont déjà elles-mêmes symptomatiques d'un problème plus général. Et à propos des décisions dont je voulais vous parler, j'en ai isolé trois, mais il y en a déjà un certain nombre qui ont été rendues, mais beaucoup sont pendantes, en tout cas en attente. Et je vous en livrerai donc trois très brièvement. La première, c'est une décision rendue par la Cour de Bogota, la Cour constitutionnelle colombienne, le 5 avril 2018. Et c'est une décision très intéressante, comme très souvent les décisions de cours latino-américaines, puisque l'univers latino-américain est un laboratoire extrêmement fécond pour nos affaires, en particulier pour l'environnement en général. Et la Cour va donner raison ici à un groupe de 25 enfants et jeunes qui était accompagné d'une ONG dont je ne parlerai pas ici. Ces requérants poursuivaient l'État pour irrespect de ses obligations climatiques en lien avec la politique colombienne de déforestation. C'est vrai que la Colombie avait perdu une surface très importante, en peu d'années d'ailleurs, de la forêt amazonienne. Les juges, dans cet arrêt du 5 avril 2018, enjoignent à la puissance publique d'élaborer un plan d'action dans les 5 mois pour préserver la forêt. Et ce qui est très intéressant pour nous, c'est que la Cour indique bien que les droits accordés par la Constitution colombienne impliquent, je la cite dans la traduction française, une transversalité et concernent les êtres humains qui y habitent et qui doivent pouvoir jouir d'un environnement sain leur permettant de mener une vie digne et de jouir du bien-être. Les requérants eux-mêmes, ça n'est pas anodin, me semble-t-il, insistent sur la dimension spatialement et temporellement globale de leur requête, c'est-à-dire relativement aux personnes visées et à l'espace juridictionnel concerné. Les personnes visées sont celles peuplant la Terre aujourd'hui et demain, et l'espace juridique, juridictionnel même concerné, ne se limite pas à celui de la juridiction habituelle de ce tribunal. La Cour, son raisonnement est intéressant, après avoir examiné l'ampleur des conséquences de la déforestation, déclare que celle-ci contrevient, je cite, « au principe de précaution, d'équité intergénérationnelle et de solidarité, pardon, et qu'elle menace ainsi, très intéressant, à court, moyen et long terme, les droits des enfants, des adolescents et des adultes, ainsi que les droits environnementaux des générations futures. » C'est la formulation de la Cour dans son arrêt du 5 avril 2018. Autre décision sur laquelle je m'arrête deux ou trois minutes simplement, très spectaculaire, récente et pourtant déjà abondamment commentée, c'est la décision sur notre continent de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe en Allemagne, décision du 24 mars dernier, qui n'a été publiée que le 29 avril, et qui repose sur des fondements un peu différents, mais on voit bien qu'il y a un effet de confluence ou de convergence dans les problématiques. Cette décision, il faut le dire, vraiment a fait grand bruit, elle a été commentée déjà abondamment, j'ai fait allusion. C'est une décision qui invalide partiellement la loi fédérale sur le climat du 12 décembre 2019. Et parmi les motifs de cette invalidation relative, la Cour analyse les exigences étatiques pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre postérieures à 2030 comme insuffisantes. C'est-à-dire que la Cour regarde de près les projections d'engagement de réduction de l'État fédéral à horizon 2030 puis 2050, et la Cour considère que les éléments livrés par l'État fédéral ne rendent pas crédible la trajectoire pourtant proposée, que s'impose l'État lui-même, peut-être pas sur la période 2021-2030, mais de 2031 à 2050. C'est une décision extrêmement puissante dans ses effets. Elle a un effet neutralisant et un effet injonctif, si je puis dire, à l'endroit de l'État fédéral. Mais surtout, du point de vue du raisonnement, la Cour ne s'appuie pas sur une théorie des droits subjectifs environnementaux des générations futures. La Cour affirme, je cite, que le devoir de protection imposé à l'État par la loi fondamentale allemande inclut le devoir de protéger la vie et la santé humaine contre les dangers émanant du changement climatique. Et la Cour ajoute qu'une telle nécessité peut donner lieu à un devoir de protection objectif, même au profit des générations futures, même si, au point 146 de la décision, la Cour prend bien le soin de préciser que, je la cite à nouveau, « cette obligation de protection intergénérationnelle est toutefois uniquement de nature juridique objective, car les générations futures ne sont actuellement pas en mesure d'exercer les droits fondamentaux, que ce soit dans leur intégralité ou comme la somme des personnes individuelles vivant uniquement dans le futur. » Je reviendrai dans peu de temps sur peut-être les difficultés d'une mise en place de mécanismes juridiques permettant de donner la parole au futur, d'un certain point de vue, même si, on y reviendra, le droit est fait d'artefacts permettant tout un tas de, non pas d'acrobaties, mais d'inventions, évidemment. Dernier point peut-être, en deux mots, du côté de la France, où on est parfois un peu timide ou réticent, rétif, il faut bien dire que le Conseil constitutionnel bouge un peu sur ses appuis, il est d'ailleurs souvent bousculé en ce sens, et dans une décision un tout petit peu plus ancienne que la dernière, mais elle-même récente, du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel a eu l'occasion de nous dire, après avoir rappelé que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel, et après avoir rappelé également que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains, le Conseil a affirmé que la protection de l'environnement, justement, comme patrimoine commun des êtres humains, constituait un objectif de valeur constitutionnelle. Il n'y a rien de très précis du côté des générations futures à ce stade, évidemment, mais vous comprendrez que cette sorte de valorisation de l'humanité dans sa continuité pourrait préparer le terrain de jurisprudence future plus audacieuse, adossée elle-même au préambule de la Charte de l'environnement, dont je vais avoir l'occasion de vous reparler dans quelques minutes. Donc, si l'on comprend bien, à travers ces trois illustrations, j'aurais pu en donner beaucoup d'autres, on peut avoir le sentiment que les générations futures et le principe d'équité intergénérationnelle passeraient progressivement du statut d'incantation hors droit à celui de normes susceptibles de servir de fondement juridique à de nouveaux droits et obligations. Je parle d'empreinte ici parce qu'il me semble que, sans être un adepte absolu de la théorie réaliste de l'interprétation, il me semble que le droit, c'est ce que finit par dire le juge, ou en dernière analyse, le juge joue un rôle très important dans l'édiction ou l'énonciation du droit. Et pourtant, ayant dit cela, évidemment, l'environnementaliste qui ne dort jamais en moi que d'un œil et qui est souvent frappé de collapsologie ou de solastalgie ne peut que évoquer des vents contraires. Les vents contraires pour que nous prenions bien conscience du fait que lorsqu'on évoque la dimension hors droit de l'équité intergénérationnelle, pour ce qui est des environnementalistes, il n'y a aucun doute, oui, aux abords du droit peut-être, en affleurance en quelque sorte, tout proche de nous, mais pas encore véritablement à l'intérieur du droit, ou si peu. Pourquoi ? Parce que ces vents politico-juridiques contraires auxquels je fais allusion, je vais être obligé d'être très synthétique, parce que ça pourrait nous emmener très loin, et nous avons à la présidence un très bon spécialiste d'une bonne partie de ces questions, des vents contraires tout simplement parce que, d'une part, il faut bien reconnaître que la puissance publique elle-même est assez fortement insensible à ce qu'on pourrait appeler la problématique du temps long. Et Pierre Rosanvallon a écrit vraiment, ce n'est pas parce que je vous savais président que je vous ai relu à ce sujet, mais vous avez écrit des choses qui, moi, m'avaient beaucoup intéressé à l'époque. Vous expliquez très bien la préférence pour le présent en tant qu'elle caractérise assez bien les démocraties libérales. Et c'est vrai que lorsque des femmes et hommes politiques sont travaillés par les logiques de mandat, la circularité des mandats, des reconductions, un temps communicationnel et politique qui est souvent un temps court, évidemment, devoir absorber dans un programme politique une sorte de continuité du temps long, d'ailleurs travailler en réalité ce temps tout à la fois par l'urgence extrême de certaines problématiques et par un temps, non pas immémorial, mais extrêmement long. La gestion des déchets nucléaires, en deçà des dizaines de milliers d'années, vous ne me dérangez pas. Ce sont vraiment des éléments tout à fait centraux. Et donc là, cette torsion des temporalités, en quelque sorte, elle est déjà, me semble-t-il, un élément très complexe sur lequel il faudrait pouvoir appuyer et agir considérablement. Ça, c'est un point important. D'autant que, je me permets cette toute petite précision technique, on ne peut pas traiter la biodiversité et les questions climatiques de la même manière. Les effets retours sur investissement d'une décision politique, du point de vue du climat, c'est extrêmement simple. Dans les 20 ans qui viennent, vous oubliez. L'effet inertiel des considérations climatiques fait qu'on travaillerait véritablement avec une sorte de sentiment de sacrifice des générations présentes au profit de celles et ceux qui apparaîtraient dans 20 ans. C'est un point. En revanche, la résilience écosystémique nous permet de penser que les approches en termes de biodiversité, de dépollution, sont, à mon avis, beaucoup plus réceptifs à une action publique et, en tout cas, à une crédibilité de l'engagement public sur ce terrain-là. Il ne faut pas oublier non plus que les considérations climatiques auxquelles j'ai fait allusion sont souvent, comme sur ces questions qui dépassent le cadre d'un État, très peu préhensibles par un État appréhendé, si je puis dire, lui-même dans sa souveraineté habituelle. Donc, cette question du temps, déjà, de la temporalité, c'est une question centrale et qui agite et secoue considérablement nos espaces démocratiques. Il faut y ajouter, et évidemment, de très nombreux travaux ont été menés sur ce sujet-là, il faut y ajouter une incertaine représentation du futur dans ce que j'appelle, ce que j'ose appeler maintenant, les démocraties en voie de défossilisation post-représentative. Alors, de défossilisation de la démocratie, le jeu de mots est un peu faible, j'en conviens. Néanmoins, il est peut-être plus intéressant qu'on pourrait le croire en première intention, parce que véritablement, si l'enjeu est, sur le plan climatique, celui d'une défossilisation de la démocratie, cela signifie aussi qu'il faut la défossiliser d'une autre manière. Donc il faut la rendre plus vivante, et donc pas forcément supprimer la démocratie représentative, mais disons lui donner des adjuvants, la nourrir d'une toute autre manière. Et ici, bien évidemment, se pose la question des conditions dans lesquelles il serait possible de rendre visible, à travers, non pas un parlement des invisibles, mais à travers telle ou telle entité ou institution, la parole des absents, de ceux qui ne sont pas encore là, à certains égards. Alors, je vous dirai dans un instant, dans très peu de temps, et pour conclure, à quel point, en réalité, la continuité même des générations nous impose de considérer que l'espace et le temps de l'humanité sont non pas confondus, mais présentent des accointances évidentes. Donc ici, comment se représenter effectivement le futur ? Alors on peut penser au Conseil des générations futures, pardon. On peut penser à la Chambre du futur, que Dominique Bourg avait appelé de ses voeux. Tout un tas de techniques institutionnelles sont proposées aujourd'hui, mais souvent, elles font... Alors je ne dis pas qu'elles sont absolument inefficaces, mais disons qu'elles se heurtent ensuite, elles se fracassent contre les conditions générales de production de la décision publique. Et le plus souvent, ce qui est incarné, et d'ailleurs à travers qui ? Des membres de la société civile ? Un conseil des jeunes, par exemple, ou alors des experts. Mais la décision publique est elle-même toujours beaucoup plus complexe que les inputs qu'on y fait entrer. Donc, ces considérations nous permettent de penser qu'aujourd'hui, cette façon d'essayer d'incarner le futur dans des institutions concrètes et présentes a sans doute un intérêt, mais très sincèrement, ne va pas extrêmement loin. Presque dernier point, si vous me le permettez, Une question centrale, évidemment, puisque j'ai parlé d'une définition un peu stipulative du développement durable tout à l'heure, mais l'un des points centraux, évidemment, pour qui s'intéresse aux besoins d'aujourd'hui et à ceux de demain, c'est la question de ce que j'appellerais l'éjection massive, c'est-à-dire hors délibération démocratique et publique, tout à la fois de la détermination des vrais besoins et l'éjection aussi des débats relatifs aux nuisances et aux technologies. Et pour qui s'intéresse au débat, justement, sur l'équité intergénérationnelle, ce point me paraît absolument central. Tout simplement parce que les questions environnementales et climatiques sont encore aujourd'hui, dans le cadre du développement durable, considérées comme devant faire l'objet de conciliations tièdes, et elles sont surtout considérées comme l'éternelle variable d'ajustement, nous le savons. Et d'ailleurs, nous en tirons les conséquences, nous en constatons les conséquences scientifiques à peu près tous les jours. Autrement dit, on annonce, d'un certain point de vue, un horizon, une sorte de flèche du temps par une détermination des besoins, puisque cette limite est lié au fait que les besoins du présent sont, d'un certain point de vue, orientés par la possibilité que des besoins futurs persistent encore, bien évidemment avec des questions très complexes de détermination de leur contenu, ça c'est tout sauf simple. En revanche, dès qu'on descend dans le détail des décisions prises, dans le détail des jeux de lobbying, évidemment, et des jeux d'acteurs, on s'aperçoit qu'au lieu d'être vectorisé dans une position d'intégration profonde, l'environnement est non pas marginalisé, mais il est mis sur un pied d'égalité, alors que nous savons bien que l'environnement, le climat, relève en réalité des conditions même de possibilité d'existence du reste. Et cette absence de verticalité, alors qu'elle est annoncée d'un certain point de vue en filigrane ou implicitement dans le texte, je tiens à communiquer avec vous sur ce point. C'est un point, me semble-t-il, absolument central. Et d'ailleurs, toutes les réflexions menées aujourd'hui sur les limites planétaires, sur, d'un certain point de vue, une forme de hiérarchisation des valeurs que l'on accepterait enfin, ça nous ferait sans doute sortir d'une forme d'économie libérale, c'est vrai, car en économie libérale, le besoin est, à la mesure des ressources sur lesquelles on s'illusionne, sans limite. Alors que ce qui nous est indiqué par les enjeux climatiques et environnementaux, c'est tout l'inverse. Mais pour l'instant, une fois encore, derrière les mots, la réalité des choses telles qu'elles se déroulent, c'est une compréhension qui, du point de vue des écologistes, enfin des écologues, pardon, et du point de vue des environnementalistes, est un non-sens, véritablement. Donc, l'éjection d'une véritable et profonde détermination des besoins de la sphère délibérative, sphère qu'il faudrait d'ailleurs elle-même, vous le savez, profondément revisiter. Je n'ai pas le temps, pardonnez-moi, Président, je sais qu'il me reste peut-être un tout petit quart, 10 minutes à peu près, c'est ça ? Je vous remercie, cher Président. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail technique de ce qui, par exemple, dans la Charte de l'environnement, me permettrait de vous donner à voir les contradictions intimes ou internes du texte. Puisque d'un côté, nous avons donc un considérant 5 de la Charte de l'environnement que je vous lis et qui nous dit « Considérant que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines, ça nous emmène du côté de notre sujet, vous l'aurez compris, sont affectés par certains modes de consommation de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles. » Ça, c'est le considérant 5 du préambule de la charte, dont le Conseil constitutionnel nous a bien dit le 7 mai 2014 qu'il a valeur constitutionnelle. Le considérant 7, je l'ai lu tout à l'heure, c'est le développement durable. Que les besoins d'aujourd'hui soient déterminés en partie par la possibilité de satisfaire ceux du futur et des peuples d'à côté. Double entrée, évidemment, spatio-temporelle, l'humanité d'aujourd'hui, mais à côté aussi. Mais nous avons en face de cela, comme un ver dans le fruit, comme un cheval de Troie, nous avons le considérant 6 du même préambule qui nous dit « Considérant que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation, au même titre que » signifie bien que l'on met à nouveau les questions environnementales sur un pied d'égalité, alors que nous le savons, à bien des égards, elles conditionnent le champ social en partie et l'économie assurément. Et l'article 6 de la charte, non plus le considérant 6, mais l'article 6, ne dit pas autre chose lorsqu'après avoir expliqué que les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable, à cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Vous voyez, cette logique libérale de conciliation, je ne nie pas qu'il faille des conciliations. Quand on descend dans le dédale hein, ou le détail technique des décisions, il en faut toujours. Mais disons qu'à titre principiel, glisser insensiblement d'une logique verticale hein, de soumission, à certains points de vue, ou d'inféodation partielle, à une forme d'égalité stricte, est quelque chose qui, du point de vue de la logique juridique, pose quand même un certain nombre de problèmes. J'aurais pu, je n'ai plus le temps, vous évoquer un certain nombre de choses sur, comme peut-être une forme de ruse de la raison historique, je pense aux articles 4 et 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Article 4, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Autrui que vous interpréterez sans doute comme moi ici, comme l'autrui d'aujourd'hui et l'autrui de demain, pourquoi pas. Et n'a de borne que celle qui assure, donc l'exercice des droits naturels de chaque homme, n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société, là encore, les autres membres de la société sont potentiellement ceux d'aujourd'hui et pourquoi pas ceux de demain, la jouissance de ces mêmes droits. Article 5 de la Déclaration, nous sommes en 1789. La loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société, ce qu'on peut relire comme signifiant, la loi a le droit de défendre les actions nuisibles à la société, société qui, là encore, me semble-t-il, abrite tout à la fois les générations d'aujourd'hui et pourquoi pas les générations futures. Donc, d'un certain point de vue, et j'en ai presque terminé, cher Monsieur le Président, d'un certain point de vue, on a le sentiment ici que rien que dans le monde du droit, des vents contraires rendent assez complexe l'insertion en profondeur de cette équité intergénérationnelle qu'on prendrait enfin au sérieux pour plagier Dworkin. Donc cette insertion difficile, elle est en plus, me semble-t-il, malheureusement, tragiquement appuyée par, là je vous avais mis les textes d'appui bien sûr, tragiquement appuyée par ce que j'appellerais des forces ambivalentes et des représentations complexes. Et évidemment, pour comprendre en quoi le droit est lui-même inapte, pour l'instant, ou impuissant, à véritablement absorber ces nouvelles injonctions, car il s'agit d'un certain point de vue d'injonctions qui nous sont faites du dehors, eh bien, il faut évidemment associer au droit tout un tas d'éléments qui relèvent de représentations, évidemment, du champ social, du champ économique. Et là, je n'ai évidemment aucune compétence pour vous en parler, mais je crois important de ne jamais négliger l'interaction entre le droit et des déterminants extra-juridiques, évidemment, qui pèsent très puissamment dans la balance. Un imaginaire particulier, par exemple, l'imaginaire économique de la croissance illimitée, hein, ou de l'actualisation possible. Il y a tout un tas de théories économiques, évidemment, sur ces questions-là. Ça, ce n'est pas du tout anodin. Et puis, évidemment, des contraintes exogènes, mais qui, en même temps, remplissent le système de tout un tas d'effets, comme les notions démographiques. La démographie, quand on travaille sur un monde limité en commun partage et dont il faut partager des éléments, si je puis dire, ou assurer une répartition équitable, vous imaginez bien qu'en 1789, penser les libertés comme la liberté d'entreprendre ou le droit de propriété, ça se fait dans un univers où nous sommes 850 millions. Eh bien, dans 10 ans, nous serons 10 fois plus sur Terre. On peut faire croire technologiquement que le monde se dilate, hein, et qu'en réalité, et c'est vrai à certains égards, nous arrivons à explorer certaines de ces ressources inexploitables auparavant, il n'en demeure pas moins que le monde n'a pas énormément changé et les données démographiques, elles, sont tout à fait spectaculaires. Et je fais preuve ici, bien sûr, d'aucun malthusianisme implicite, ce n'est pas du tout mon sujet. Donc c'est une donnée qui apparaît comme autant de contraintes d'un certain point de vue. D'autres éléments, évidemment, c'est les éléments technologiques dont j'ai déjà parlé. Si un président de la République, et je suis désolé de le dire, et je ne le nommerai pas, bien sûr, nous dit que la 5G traite la 5G non pas par-dessus la jambe, mais si je peux dire en évoquant les amis chez la lampe à huile, c'est assez symptomatique. Je ne lui en fais pas le grief absolu, mais je veux dire qu'il est symptomatique de ces problématiques d'inflation technologique, si je puis dire, dont nous savons bien qu'en général, elle ne renvoie pas forcément ou nécessairement à des besoins absolus. Donc les besoins sont auto-créés d'un certain point de vue, l'État lui-même se rend complice d'un certain nombre de manœuvres relevant de ce qu'on pourrait appeler des dissonances informationnelles. Et les derniers éléments de cette complicité-là, nous les avons dans le glissement d'un parc automobile thermique vers un parc automobile électrique, où là, véritablement, je n'ai pas le temps, mais on pourrait passer beaucoup de temps à expliquer en quoi l'État ne joue pas, me semble-t-il, son rôle, en se rendant complice d'informations tronquées, trompeuses, évidemment, qui, et bien sûr, du point de vue de l'éducation, de l'information aux vrais enjeux, pose tout un tas de questions. On s'arrête à la prise électrique pour dire les choses de manière très simple. Et en réalité, c'est non pas une absence de solution totale, mais disons que si on ne couple pas les technologies avec des révolutions coperniciennes extrêmement nombreuses et profondes, sincèrement, ça va être très, très compliqué de s'en sortir. Pardonnez-moi cette expression un peu triviale. J'ai pratiquement fini. Peut-être un mot. Alors, je suis désolé, c'est un peu pompeux, peut-être, hein, les éléments de ce slide-là. plus j'avance dans mes modestes lectures, plus je me dis que je pense un peu au droit comme Épicure pense à la mort dans la lettre à Ménécée. C'est-à-dire que j'ai l'impression que tant que les conditions extérieures ne sont pas réunies, le droit est inutile, et quand elles le seront, il sera de peu d'utilité. C'est un peu comme la mort chez Épicure. Tant qu'elle est, nous ne sommes pas, et quand elle est, nous ne sommes plus. Tant que nous sommes, elle n'est pas, etc. Sincèrement, je crois véritablement qu'il faut travailler sur les représentations des représentations. C'est-à-dire que l'outillage juridique lui-même, s'il n'est pas très profondément réinvesti par des représentations nouvelles, ne pourra que décevoir à bien des égards. Et je vous dis ça parce que l'environnementaliste est souvent celui qui, au chevet des problèmes planétaires, se trouve déçu. Je le dis sincèrement, malheureusement c'est comme ça. Il y a peut-être des professions dans lesquelles on s'en sort mieux, ou des métiers du droit dans lesquels on peut se frotter les mains. Pour nous, c'est un petit peu plus compliqué. Donc cette idée, j'ai mis ça en vert, peut-être d'une façon un peu grossière, là encore, d'une réinscription du sujet individu dans ce que j'appellerais ici un holisme post-contemporain, où se rejouerait autrement la dialectique du tout et des parties, habiter en vivant, pour détourner un titre de Vinciane Després, ça me semble être déjà... Alors, bien sûr, c'est beaucoup plus facile, et les philosophes le savent bien mieux que moi, hein, c'est beaucoup plus facile à affirmer qu'à réaliser concrètement. Mais en tout cas, cette idée qu'il faudrait se départir d'une sorte de vision monadologique, atomisée des individus pour refaire société autrement, et dans une perspective inclusive sur laquelle je vais revenir juste pour finir, c'est une idée qui me semble absolument centrale. Et ça veut dire notamment, évidemment, qu'il faut aussi concevoir l'équité intergénérationnelle dans une perspective ouverte. Et là, c'est sans doute l'une des thématiques les plus, non pas nouvelles, elle est à la fois ancienne, la personnification de la nature est très nouvelle. L'idée, c'est donc de dépasser la dimension anthropocentrée, ce qui d'ailleurs retire toute son utilité au terme environnement dans ma présentation, dépasser évidemment la dimension anthropocentrée pour une forme d'écocentrisme bien compris. Et tout ça, c'est la question de l'achèvement des Lumières, d'une part, me semble-t-il. C'est aussi la reconquête d'un humanisme, mais d'un humanisme inclusif. Et quand je dis ça, je suis vraiment désolé, on pourrait passer beaucoup de temps sur ces sujets-là. Mais je crois que ce sont des déterminants de la fabrique du droit, en réalité, qui sont tout à fait essentiels, me semble-t-il. Et donc, il faudrait quitter l'intergénérationnel anthropocentré en faisant une place, je dirais, au droit du vivant non-humain, par exemple. Et dans l'affaire du fleuve Atrato en Colombie en 2016, il était question déjà de cela, hein, et de nombreuses entités permettant le vivant ou de nombreuses entités vivantes font l'objet d'une réflexion, d'une appropriation personnificatrice par le droit, et qui pourrait avoir évidemment des effets sur l'inclusion dont je parle. Hein. Autrement dit, ce ne seraient plus seulement les droits d'aujourd'hui pour les humains, ou de demain même, mais des droits coextensifs d'un certain point de vue, mais avec vraiment une idée d'interdépendance et de continuité extrêmement forte. Voilà, je vais terminer, si vous le voulez bien, avec simplement cette toute petite image au fil de l'eau, parce que mon sentiment, en ayant travaillé ce sujet, je serais très heureux de pouvoir peut-être tout à l'heure en débattre avec vous, mon sentiment, c'est qu'à certains égards, l'intergénérationnel renvoie aux générations futures comme un point de fuite. Notion qui aurait une sorte de valeur heuristique, si je puis dire explicative, mais qui échouerait du point de vue de ces figurations les plus concrètes à nous faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Donc ça resterait une sorte, non pas d'utopie, mais d'abstraction à certains égards. Et c'est la raison pour laquelle je proposerais volontiers, c'est une métaphore simplement, hein, mais la métaphore du fleuve, j'imagine, comme pour la cour colombienne, un fleuve au bord duquel, ce serait l'Amazone, ça peut être l'Atrato ou d'autres, d'ailleurs le Whanganui, par exemple, ou d'autres, fleuve au bord duquel on aurait plusieurs communautés, pourquoi pas les Wayapi, par exemple. Et ces communautés habiteraient pour l'une d'elles en amont du fleuve et pour l'autre en aval. Et vous avez bien sûr vu la métaphore grossière du fleuve, comme espace, évidemment, espace fluide, mais aussi comme fleuve, le fleuve comme incarnant, du point de vue de l'image, le cours du temps. Et l'idée serait que ceux qui sont situés, la communauté située en amont, auraient non seulement des égards pour le fleuve, parce qu'elle sait, alors elle pense fleuve peut-être, ça c'est la question. Ce n'est pas du tout anodin, à mon avis, si l'anthropologie et l'ethnologie sont extraordinairement réactivées aujourd'hui dans nos centres de réflexion, d'un certain point de vue, dans nos cercles de pensée. Parce que le transgénérationnel, ce n'est pas seulement ceux qui viendront, c'est aussi une forme de mémoire pour les pratiques anciennes, ceux d'avant. D'un certain point de vue, celles et ceux d'avant. Et ce que je trouve assez beau dans cette métaphore, c'est que la métaphore du fleuve nous permettrait de nous dire qu'en réalité, quand on parle de génération future ou d'intergénérationnel, il ne faut jamais oublier que l'intergénérationnel est déjà là. non seulement à travers les enfants, les adolescents, qui sont nombreux à avoir mené les actions en justice dans le cadre climatique que j'évoquais tout à l'heure, mais déjà là, au sens où il ne faut pas espérer beaucoup de notre capacité à intégrer les générations futures si déjà les peuples d'à côté ou celles et ceux d'à côté sont profondément et prodigieusement négligés par le droit. D'où cette peu habile métaphore, j'en conviens, pour conclure mon propos. Je vous remercie.